Les 23 et 24 septembre, Pop Montréal présente la sublime auteure-compositrice-interprète Émilie Ogden en prestation dans la magnifique et intime Chapelle Saint-Louis de l'église Saint-Jean-Baptiste située sur la rue Rachel. Le nombre de billets est très restreint, alors n'attendez pas avant d'en acheter. Pour en savoir plus et vous procurer des billets, rendez-vous sur le site popmontréal.com.
Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salon G à la place au Salon G. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salon G, c'est la place pour te sustenter.
Bonne nouvelle, Let's Eat Grandma figure au palmarès de choc.ca. Et devinez quoi? La formation donne son tout premier spectacle au Canada le 23 septembre au bar Le Ritz PDB. Précédez les tendances et assistez ici même dans le cadre du très cool festival Pop Montréal à la prestation de ce groupe dont tout le monde parlera sous peu. Pour obtenir des billets ou plus de renseignements, allez au popmontréal.com. Hey! Êtes-vous fan du groupe The Lumineers? Le 23 septembre, notre vedette locale Jesse McCormack jouera au Rialto Hall dans le cadre du lancement de son nouveau EP After the Glow, paru sur Secret City Records. Une prestation dont les billets s'envoleront très vite à coup sûr. Venez le voir avant qu'il ne se produise à guichet fermé au Festival de Jazz. Une chance unique de vivre l'expérience underground de Pop Montréal. Pour obtenir des billets et plus de renseignements, rendez-vous sur le site popmontréal.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 111 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et c'est fantastique de vous avoir avec nous. Hybride et changeante, la culture populaire et geek évolue à une vitesse telle qu'il est parfois difficile de la suivre. Pop en Stock est une revue nouveau genre, à la fois écrite et racontée, conçue pour rendre facile et agréable l'observation de la culture populaire. Toutes les semaines, l'équipe de Pop en Stock se donne cœur et âme à l'écriture d'analyses et d'observations sur les fandoms actuels, question de stimuler les réflexions des Québécois sur cette nouvelle culture englobante. Aujourd'hui, nous recevons à l'émission Mathieu Ligoya.
Il faut dire que c'est ça, la bande dessinée américaine a vraiment pas rendu la vie très facile aux figures noires dans la bande dessinée.
Ainsi que Gabriel Tremblay-Godette.
Il se cache à personne parce que tout le monde sait il est qui. Mais quand il revêt le masque, c'est plus pour dire « game on », je suis là pour me battre.
Pour nous parler des super-héros afro-américains. Bonne écoute.
Bonjour Jean-Michel.
Salut Mathieu, comment ça?
Ça va bien toi?
Oui, oui, mais comme je te dis, je déborde d'enthousiasme. Parce que c'est vraiment le fun, c'est ça qui est agréable, c'est que la structure de Pop en Stock étant une chose très particulière, on ne sait jamais qui qu'on va avoir à l'émission, un peu comme une boîte de chocolat dans un film de Robert Zemeckis. Les émissions à caractère super-héroïque, tu y es toujours. Toujours présent, toujours fidèle.
Ouais, je sais.
Ça me fait vraiment plaisir.
Ah, ça me fait plaisir à moi aussi.
Ben parce que c'est toujours exhaustif. Il y a toujours un travail très, très précis qui est fait. Il y a toujours un travail très sensible, si je pourrais dire. On faut quand même le dire, comme ça a été dit dans plusieurs émissions à caractère culturel. On n'est pas afro-américain. On va parler d'un regard très externe. Surtout sur ces stéréotypes-là, qui sont, on n'y échappe pas là, quand on fait de l'étude de la culture super-héroïque, on est dans l'archétype, on est dans le stéréotype. Mais il faut le dire que s'il y a des gens qui veulent réagir ou participer aussi, vous voyez des omissions évidentes à l'émission, on vous en prie, là, c'est vraiment une conversation. C'est juste que moi, personnellement, en tant qu'occasion, je suis comme, je veux mettre ça au clair.
Oui, tout à fait.
C'est important. Je veux pas dire bien fait, parce que bon, ça dépend du créateur. Il y a pas toujours, tu sais, ça va de même aussi avec les super-héroïnes. C'est pas tout Wonder Woman qui est un exemple vaillant de féminisme. Mm-hmm. Puis c'est aussi essentiellement la même chose avec ces personnages-là, mais disons qu'ils essayent. J'ai toujours cette impression-là, je laisse toujours la chance au coureur. Quand vient le temps de faire des illustrations de personnages afro-américains, tu dis, bon, oui, il faut qu'il fonctionne avec cette grille-là. Voyons voir où la grille elle a fonctionné. Voyons voir où la grille elle a causé des problèmes, où elle a créé des tensions, des frictions, des incertitudes. Oui,
puis en quoi, par moment, il peut finir par transcender le stéréotype qui se posait en fait le définir, puis qui en quelque sorte le fondait. Parce que je pense que ce qui serait intéressant de faire, c'est de commencer justement par revenir brièvement sur la figure de l'Afro-Américain en général dans la culture pop américaine. Puis là, quand je parle de culture pop, il faut vraiment là, remontons pour l'exercice au moins jusqu'à Birth of a Nation de D.W. Griffith, donc film fondateur d'une... en tout cas, qui vient cristalliser à son époque, en 1914, une certaine manière de faire du cinéma, puis une certaine manière de raconter à l'aide d'images mouvantes. Bon, Birth of a Nation a été un cas très problématique qui a, à son époque, énormément marqué les gens, scindé le pays en ravivant des tensions de la guerre de sécession qui, à ce moment-là, était quand même encore latente dans la mesure où est-ce que il y a beaucoup de gens qui allaient voir Birth of a Nation, dont les grands-parents, par exemple, s'était battu dans la guerre de sécession. Donc, ce film-là va vraiment... Non, parce que non seulement c'est le film, en quelque sorte, qui est fondateur du cinéma américain classique, il va vraiment aussi, pendant de nombreuses années, dicter une certaine manière ou une certaine façon dont le cinéma américain va se positionner par rapport à l'afro-américain. Donc, il va en faire soit l'espèce de brute qui a de la difficulté à contrôler ses pulsions, mm-hmm. Une brute sexualisée, ou bien il va en faire un faire-valoir comique, l'espèce de stéréotype là, du noir qui comprend pas trop ce qui se passe, qui est malhabile avec la technologie ou les objets. Donc, il va vraiment concentrer l'afro-américain il va pas du tout, par exemple, en faire une figure de martyr, ce qui aurait très bien pu naître, étant donné l'historique de l'esclavage que les Afro-Américains ont vécu durant des siècles aux États-Unis. Non, ils vont vraiment essayer de s'en servir comme, puis au fil des films, le cristalliser dans un archétype. Puis preuve en est, le premier film parlant de Jazz Singer, Al Jolson, pianiste jazz à l'époque, est blanc, puis en fait on va lui faire un blackface pour qu'il joue un noir. Le noir à l'époque n'est pas du tout capable en fait d'avoir un rôle de noblesse, d'incarner quelque chose de l'ordre de l'idéal. Il est toujours une espèce de figure qui est ancière au héros, ou soit son antagoniste, ou soit cette espèce de figure inconnue.
Ouais. Mm-hmm. Hein, d'autres. Ouais.
Ouais, tout à fait. Ça va changer. Le cinéma va beaucoup aider à ça. À partir de la fin, milieu des années 50, puis à travers toutes les années 60, Sidney Poitier, notamment, va, à travers plusieurs films, dont quelques-uns excellents. Si jamais des curieux, je vous conseillerais vivement de voir The Defiant Ones de Stanley Kramer avec Sidney Poitier puis Tony Curtis. Vraiment un chef-d'œuvre des années 50 où, en fait, un prisonnier blanc est enchaîné à la cheville à un prisonnier noir. Le blanc et raciste, puis les deux, ils doivent se démerder puis travailler ensemble pour s'échapper. C'est génial, absolument génial, c'est un film de 58. Donc Poitier va vraiment incarner, ça va vraiment être le premier Afro-Américain à l'écran qui va être un modèle. Pendant ce temps-là, le comic book américain, lui, il est complètement, il croule sous les stéréotypes depuis son émergence là, sous la forme telle qu'on la connaît à la fin des années 30, tellement que, puis ça c'est... parenthèse de quelque chose en fait que j'avais isolé, que je trouve intéressant, par rapport au fameux livre de Frederick Wortham, Seduction of the Innocent, dont on a souvent parlé à l'émission, livre qui...
pour le meilleur et pour le pire, est une grande... d'un incontournable, la théorie.
Ouais, de la bande dessinée, parce que c'est le livre du censeur qui, un peu à la manière du macartisme, a lessivé complètement le comic book américain, mm-hmm. en faisant perdre son emploi à beaucoup d'artistes, en faisant fermer beaucoup d'éditeurs.
Mais comme tu peux jamais entièrement démoniser une œuvre, c'est aussi le premier livre imprimé qui faisait de l'analyse de la bande dessinée.
Oui, tout à fait.
Fait que c'est comme...
Il y a quelque chose... Il y a un passage, en fait, dans le livre, Seduction of the Innocent, au sujet, justement, des stéréotypes, qui est assez intéressant, qui est un passage, en fait, où Wortham critique vivement les représentations racistes, notamment des Afro-Américains, dans les bandes dessinées que lisent les jeunes. Puis en fait, il attaque ces bandes dessinées-là en disant que expose children's minds to an endless stream of prejudice-producing images. Puis il conclut ce passage de son livre en disant qu'il faut vraiment se poser la question parce que c'est à cet endroit-là où where a psychiatric question becomes a social one. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à force de représenter puis de contraindre les Afro-Américains notamment ou les Asiatiques à des figures stéréotypales, ça, à son avis, nécessairement éduquerait les enfants dans le fond à voir ce genre de réflexe-là.
Ouais, ça cristallise la stigmate, là. C'est vraiment qu'ils sont...
Wertham, en fait, évidemment, on décrit parce qu'on connaît l'impact négatif qu'il y a eu sur la réputation de la bande dessinée mm-hmm. américaine, mais en fait, son grand cheval de bataille, lui, c'était de mettre fin à la ségrégation raciale ouais. dans les écoles. Et donc... Ce qui était un peu intéressant avec son argument, c'est que si d'une part il dit il y a pas de représentation positive des Noirs dans les bandes dessinées, il fallait accepter en fait le bon grain livré. Donc s'il disait oui ça c'est vrai, effectivement c'est valable de dire que ça a une influence négative sur les enfants, ben là tout ce qu'il disait sur la violence et sur la possible homosexualité ouais. de Batman et Robin devait également être accepté. Donc ça fait un peu... Et j'avais même lu, en fait, il y a un excellent ouvrage de Bart Beattie qui veut un peu remettre les pendules à l'heure sur l'influence de Wertham sur culture populaire et la bande dessinée. Et lui disait que quand on regarde les témoignages, c'était presque bizarre parce que on demandait à Wertham d'intervenir, on l'a souvent demandé d'intervenir sur la question de la bande dessinée, la délinquance mm-hmm. juvénile, et lui, il revenait systématiquement à « mais le problème, c'est la ségrégation ». C'est comme on pouvait pas, c'était un mauvais témoin appelé à la barre dans un procès parce qu'il revenait constamment à cette question-là.
Ah!
Donc, fin de l'intervention.
T'as tout à fait raison, c'est qu'il revenait constamment aux questions sociales. Puis pour lui, le comic book, il l'interprétait constamment comme, justement, comme un média qui faisait partie d'un ensemble puis qui était révélateur d'une certaine condition aux ouais. États-Unis. Pour fermer la parenthèse Wertham, pour que ça soit dit, je pense que ça vaudrait la peine un jour qu'on s'assoie, qu'on lise ce fameux livre, qu'on fasse une émission dessus.
Je dois dire effectivement que j'en ai lu seulement certains passages. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation. Je l'ai vu une seule fois dans une librairie en Australie, mais c'était dans une pièce, là c'est, je m'excuse pour la note personnelle, mais c'était dans une pièce où en fait il y avait, j'ai vu par la suite qu'il y avait un post-it sur la porte disant les livres du propriétaire seulement ne pas rentrer, et il y avait une incroyable sélection d'ouvrages historiques sur la bande dessinée américaine. Que, je veux dire, t'es assigné, tu t'attends pas à ça. Il y avait Seduction of the Innocent, et là, je suis allé voir la caissière, j'ai dit, je suis prêt à mettre le prix qu'il faut pour acheter ça. Puis elle m'a dit, je vais demander au patron, mais habituellement, ça, c'est son stage, il veut pas. Ils ont envoyé un courriel, je suis retourné le lendemain, elle a dit non. Et j'ai comme très sérieusement conseillé de faire, ah, dommage. J'ai remonté en haut, comme sur le deuxième étage, juste aller comme... subrepticement le subtiliser, mais non, je ne l'ai pas fait.
Parce qu'il est disponible en PDF. On peut le trouver pas mal n'importe où.
Oui, je suis sûr qu'on peut s'arranger pour le trouver.
Dit-il en craquant ses jointures.
Mais en tout cas, pour en revenir à l'afro-américain dans la culture pop, pour dans le fond finir par aboutir à Black Panther, il faut dire que c'est ça, la bande dessinée américaine a vraiment pas rendu la vie très facile aux figures noires dans la bande dessinée. Il y a un jeune personnage dans Young Allies dans les années 40 qui s'appelle, c'est très ironique d'ailleurs, là, qui s'appelle Whitewash, qui dans l'équipe des kids en fait est celui qui le plus souvent se fait kidnapper ou celui qui est le plus gaffard. C'est le comic relief, mm-hmm. c'est le moins héroïque des gamins. Mais sinon c'est ça, c'est vraiment extrêmement problématique. Puis c'était évident que quand on arrive en 66, dans le numéro 52 de Fantastic Four, où Kirby et Lee introduisent Black Panther pour la première fois, en 66, c'est assez tardif. Là. On peut pas dire que le comic book a été vraiment au front sur cette question-là. Vraiment pas, même.
C'est tardif, mais c'est vraiment zeitgeistien. Première apparition date de juillet 66, la fondation du parti des Black Panthers, c'est octobre 66. Mm-hmm. Lee et Kirby ont vraiment ont épuisé leur inspiration pour le personnage dans le regroupement proto-Black Panthers, qui était beaucoup plus le Black Panther Party for Self-Defense. Mm-hmm. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même incroyable qu'ils ont si rapidement ramassé la balle au bon. Là.
Oui, c'est sûr. Ben, c'était vraiment, tu sais, à cette époque-là, Lee et Kirby fonctionnaient beaucoup en lisant les découpeurs de journaux. Ils s'inspiraient constamment du quotidien, puis fonctionnaient beaucoup là-dessus en fait pour s'alimenter, notamment parce qu'ils étaient pris dans une espèce de rush créatif qui faisait que c'est ça, Kirby, il fallait qu'il dessine et écrive en grande partie, hein, faut le rappeler, à peu près un comic book par semaine, puis il le fait pendant pendant un bon 20 ans, là, la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70, fin des années 70. Donc Black Panther, à l'époque, c'est comme toutes les autres créations en fait des Fantastic Four, comme Galactus, comme Silver Surfer, comme les Newmans, une espèce de truc qui est comme, bon, OK, là, il faut faire un comic book cette semaine, sur quoi ça porte. Fouine essaie de trouver des affaires, des références visuelles, des machins, des trucs, on les amalgame ensemble, on fait un comic.
On dit, pratiquement, de la première tentative, ils ont réussi à faire un personnage qui est extraordinaire.
Ben, tout à fait. Puis ça, c'est vraiment parce que... Et ça, je crois qu'on le doit beaucoup à Kirby, dans la mesure où est-ce que, quand on regarde la carrière de Kirby, quand Kirby s'intéresse à représenter l'autre, à représenter l'inconnu, l'étrange, il est incapable de se replier sur les racines pulp de la bande dessinée américaine. Lui, il regarde toujours vers un horizon cosmique, vers quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la science-fiction. Et étant donné qu'il avait une grande liberté créative chez Marvel, et c'est ce qui a probablement fait un tel essor chez Marvel dans ces années-là, il essaie toujours de se dépasser au niveau des idées ou des concepts qu'il essaie de représenter. Puis, tu sais, c'est quand même ahurissant que Black Panther, justement, arrive 3-4 numéros après la première apparition de Galactus et de Silver Surfer. Ces choses-là se passent dans un laps de temps extrêmement rapproché, où justement, bon, on regarde de plus en plus vers la Lune, il y a une espèce de, tu sais, la nouvelle frontière, c'est celle de l'espace, il y a une espèce d'engouement qui reste chez Kirby, puis qu'il cultive depuis son enfance, parce que c'est quelqu'un qui, dès les années 30, en étant gamin, allait au cinéma dévorer des récits de science-fiction ou des récits fantastiques, comme Frankenstein, Things That Will Come, le film adapté des G.G. Wells. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui va constamment être tourné vers la science-fiction. Fait que c'est sûr que là, quand ils introduisent Black Panther, puis qu'on finit par arriver à Wakanda, c'est évident pour Kirby qu'on va pas faire face à une espèce de royaume de jungle qui serait tiré d'une bande dessinée de Tarzan ou c'est d'un autre univers à la Edgar Rice Burroughs, oui, avec des vieilles ruines puis des trucs. C'est sûr qu'il y aura toujours cette espèce d'aspect relique, chasseur de trésors, machin, qui va intéresser Kirby quand il va dessiner Black Panther, particulièrement quand il va reprendre le personnage à la fin des années 70. Mais ces mystères-là sont jamais tournés vers l'histoire, c'est-à-dire vers une relique, espagnole du 16e siècle, mais va vraiment tout le temps s'axer sur une quête de l'inconnu. Une grenouille, par exemple, cosmique, qui va permettre de voyager dans le temps, puis de faire venir un homme de la 6e ère de l'espèce humaine, ouais, qui vient d'il y a de 6 millions d'années dans le futur. Donc, il utilise, en fait, les paramètres classiques du récit du jungle, pour le dire rapidement, puis sert de ça pour ouvrir vers des mystères qui sont vraiment des mystères Kirby.
Tu sais, rapidement, pour les auditeurs qui seraient peut-être pas familiers avec le personnage de Black Panther, Black Panther est un guerrier roi, dans la tradition des Warrior Kings, de cette cité qui s'appelle Wakanda. Wakanda est un paradis technologique, une espèce de Gods of Eden.
Comme l'Atlantide.
Comme Atlantide, exactement, le continent de Mu et ainsi de suite. C'est une cité isolée, c'est une communauté qui n'a pas liaison avec le monde externe, qui repose sur une richesse, ou du moins repose sur un minéral extrêmement rare dans l'univers de Marvel, qui s'appelle le vibranium. Rapidement, le vibranium est un des métaux utilisés pour la construction du bouclier de Captain America. C'est un métaux qui absorbe toute forme de vibration. Et ça explique pourquoi un personnage ultra puissant comme Hulk peut frapper sur Captain America. Et si Captain America se protège avec son bouclier, il ne recevra aucun choc. Wakanda est construite sur le seul géso.
En fait, c'est un météore de vibranium qui s'est crashé.
Et eux autres, ils ont pu construire leur cité paradisiaque, utopique, technologique autour de ça, et limiter les dégâts en créant des frontières extrêmement solides. Ça fait que le personnage, c'est là où c'est intéressant, parce que là, avant d'avoir des personnages qui étaient des civils, on arrive tout de suite avec un roi. On arrive tout de suite avec quelqu'un qui est pas juste en train de sauver des citoyens communs. On a immédiatement le double, comme la double responsabilité. C'est pas un personnage qui a des problèmes simple, c'est un personnage qui doit à la fois combattre et aussi gérer. Et aussi, bon, la structure de Wakanda, la structure politique, fait en sorte que tu peux être vaincu à tout moment, ben, et perdre le trône.
Ça doit devenir épuisant quand même. Ben, si ça peut être à tout moment, tu sais, il doit avoir comme une liste d'attente.
Mais en même temps, c'est ce qui fait la noblesse du personnage. C'est qu'il y en a quelques-uns qui décident de, comme, get at the king, mais pas tant que ça. Parce qu'on le sait que T'Challa, when you come at the king,
you best not miss.
Exactement, merci beaucoup. C'est un peu ça là, qui se passe avec Black Panther. Beaucoup de lettres de noblesse. C'est ça, c'est un personnage excessivement noble. Dans le code génétique du personnage, il doit avoir une stature, une prestance. Il est très, très, très royal, même jusqu'à l'interprétation que Chadwick Boseman en fait dans Captain America 3 Civil War. Il rentre, je veux dire, il nous le présente comme le fils du roi de Wakanda, mais il se comporte déjà, il y a déjà la
prestance.
Ouais, d'un roi.
Ce qui est aussi, ce qui amène aussi son autre problème, si je peux dire, parce que entre Black Panther, The Falcon, qui est à l'époque l'adjuvant de Captain America, puis Luke Cage, on fait face à trois personnages qui, contrairement au reste de l'univers Marvel, on dirait parce qu'ils sont noirs, se font un peu interdire des choses comme l'humour. Ils sont vraiment, vraiment enclavés dans une espèce de rôle qui est extrêmement stéréotypal, dans la mesure où est-ce que dans le cas de Black Panther, bon, c'est l'héritier, il doit gérer son royaume. Luke Cage, c'est le type qui se bat contre les pimps. Puis Falcon, c'est le type qui, des fois, se fait rabouer par sa blonde, ou qui est comme l'adjuvant, un peu toujours dans l'ombre de Captain America, puis qui manque un peu beaucoup de personnalité, même, à l'époque. Mais c'est pas du tout, en fait, des héros qui ont des moments comiques, contrairement à peu près tous les autres personnages blancs de Marvel à cette époque-là. On le sent qu'il y a une espèce de je veux pas dire d'agenda politique derrière ça, mais il y a quelque chose dans l'écriture qui les contraint à une certaine posture, puis qui font qu'ils sont moins... qu'ils ont moins une humanité agile que les autres personnages de Marvel.
Mais je crois, en fait, que mon hypothèse, c'est ça qui marche un peu sur des œufs. C'était une chance qu'ils prennent, là. Ils ont annoncé qu'il allait avoir un film, mais bon, on va rentrer un personnage noir dans notre vache à lait, là. Je veux dire, on aura Luke Cage pour s'amuser un peu, mais là, il faut qu'il s'intègre à un ensemble où là, effectivement, on déconne, on détend, on a déjà Falcon qui peut nous faire adhérer, mais là, Black Panther, on va jouer gros sur lui, on va essayer de l'amener au cinéma, donc on veut certainement, il faut qu'il soit absolument irréprochable.
Ouais.
Donc de faire de lui ce personnage-là qui est très noble, qui est vertueux, qui se bat très bien, etc., là, qui a à peu près aucune faille. Pour eux, c'est peut-être marrant de dire on veut absolument pas se mettre personne à dos.
Non, ça c'est sûr, je suis bien d'accord avec toi. Ça prouve aussi à quel point dans ces mouvements industriels, c'est très rare qu'on confie le coup d'envoi à des Afro-Américains.
Ouais.
Tu sais, les Luke Cage, les Black Panther des années 70, ils sont pas dessinés, ils sont pas écrits par des Afro-Américains. Ils sont écrits par des Blancs, de la même manière que le Blaxploitation à cette époque-là, qui commence en 71 avec Sweet Sweet
Black Badass,
c'est ça. Puis qui s'étend à peu près, grosso modo, jusqu'à 75-76, comprend quelque chose comme un corpus de 200 films. Sur ces 200 films-là, il y en a plus de 80% qui sont réalisés par des Blancs et produits par des Blancs, puis écrit par des Blancs. Tandis que là, après ça, si on a affaire à des scénaristes, des scénaristes noirs, comme par exemple Christopher Priest, qui fait Black Panther là, fin des années 90, début 2000, là, pendant peut-être une cinquantaine de numéros, si ma mémoire est bonne, mais tout de suite, on est dans une écriture qui est beaucoup moins décomplexée. Il est pas en train d'avoir à prouver quoi que ce soit, il fait juste écrire un personnage qui se donne à être Black Panther, puis il essaie de rentrer dans le mythos puis de faire quelque chose d'intéressant avec.
Non, mais ouais, ben Hudlin aussi, c'est la même chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup la run de Reginald Hudlin puis de Romita Jr. Mais c'est drôle parce que Panther est vraiment une exception. Quand on y pense, les deux autres grands personnages afro-américains, Luke Cage et
Falcon. Chez Marvel.
Ouais, chez Marvel. Chez DC, on a John Stewart, qui est le Green Lantern soldat. Faut pas oublier leur fonction principale, parce que Falcon est un soldat, John Stewart est un soldat. Et Luke Cage et John Henry Irons, Steel, c'est deux défenseurs du ghetto. Donc, ces personnages-là, dans leur fonction de tous les jours, sont des rôles très sérieux. Les protecteurs d'une nation ou les protecteurs d'un quartier.
Sinon, en fait, j'aurais aimé juste pointer, parce que le temps passe, là. Pour ceux qui s'intéressent, l'arc narratif de Black Panther, qui est très intéressant, dont on parle moins, c'est le premier qui est sous une forme sérialisée à partir de Jungle Action numéro 6, donc qui est en début des années 70. C'est écrit par Don McGregor, qui est un scénariste dont on parle pas tant que ça, puis c'est dommage. C'est un scénariste qui a beaucoup travaillé chez Marvel. Travaillé au début, il s'est fait connaître sur Black Panther, après ça, il a écrit tous les Kill Raven. J'aimerais beaucoup ça qu'un jour on fasse une émission sur Kill Raven.
Oui.
Puis son écriture aussi, elle est beaucoup plus allégée que par exemple, bon, même si j'aime bien que celle de Kirby. Qui va, tu sais, quand tu regardes les Black Panther des années 70, il y a deux personnes qui ont travaillé dessus, McGregor et Kirby. Puis quand on passe chez Kirby, c'est vrai que visuellement, c'est somptueux. Mais au niveau de l'écriture, on est vraiment dans une écriture très, très datée, où les personnages sont encore constamment en train de dire ce qu'ils sont en train de faire.
Ouais.
Puis là, ben, on est rendu en 77, 78, 79, ça commence à être vieux, là, comme manière d'écrire. Tu sais, on est dans les années où Frank Miller va commencer à écrire, Alan Moore commence... on n'est plus là-dedans, là,
ouais.
Faut que ça change.
Ouais. C'est une autre époque. Ouais. Mais on parle pas de Black Panther pour rien, parce que dans le dernier 6 mois, même peut-être un peu plus, là, parce que la cédule de parution est pas si rigoureuse que ça, c'est l'année dernière au San Diego Comic-Con qu'il y a eu l'annonce que on engageait Ta-Nehisi Coates pour écrire Black Panther, ce qui était un énorme coup pour le personnage, parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux par rapport à la représentation des femmes dans l'industrie des comic books. On a, ben en fait, les maisons d'édition ont fait du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'il y avait, puis il y a définitivement des titres qui sont en train qui se portent beaucoup mieux parce que c'est des femmes comme Kelly Sue DeConnick, Gail Simone et tout qui écrivent. Et là, de mettre Ta-Nehisi Coates, qui est l'auteur, enfin un auteur à succès extrêmement important actuellement là, pour la voix afro-américaine aux États-Unis, de son essai autobiographique politique extrêmement émouvant, Between the World and Me. Quand Marvel a décidé d'engager Ta-Nehisi Coates pour scénariser Black Panther, c'était un geste politique. Fait qu'en faisant ça, ils ont dit quelque chose.
Je pense, il y a quelque chose qu'il faut préciser par rapport à Ta-Nehisi Coates, selon moi, c'est que comme c'est un intellectuel de premier plan, c'est aussi une interface entre l'expérience noire américaine et les Blancs. Oui, dans la mesure où, bon, il est connu pour Between the World and Me, mais il écrit aussi pour The Atlantic. Ouais. Et quand il écrit pour The Atlantic, il a vraiment les coups des franges, il fait des textes, il a fait un The Case for Reparations, qui est un truc, là, je veux dire, pensez pas que c'est parce que c'est un article dans le magazine, vous allez lire en 15 minutes, là. C'est un projet d'une soirée ou même plusieurs soirées pour digérer toute l'information. Il a écrit, selon moi, le texte le plus pertinent sur les émeutes à Ferguson. Donc, Ta-Nehisi Coates, c'est à la fois quelqu'un qui est extrêmement articulé pour décrire l'expérience des Noirs, mais c'est quelqu'un qui va aussi... C'est un point de contact, justement, avec, dans une Amérique qui est encore en train, même en 2016, qui est assez ségrégée, où il n'y a pas beaucoup nécessairement de dialogue entre les Blancs et les Noirs, ou du moins que les Blancs osent pas nécessairement aller parler aux Noirs. Ben là, il y a un Noir qui prend la parole et qui le fait dans un médium qui peut bien se prêter, justement, à ce que les Blancs puissent se pencher et écouter et être attentifs.
C'est vrai.
Donc, il y a cette question-là de, oui, il est un porte-parole de la cause noire, mais c'est aussi... Une des personnes, on se dit, ben, si je veux avoir une idée de ce qu'est l'expérience noire, il va me la donner.
C'est bien dit, puis ça cause quelques frictions par rapport au comic book super-héroïque. C'est pas le titre le plus populaire. Il y a une très bonne réception critique parce que les gens, je pense, reconnaissent le travail qui est en train d'être fait, mais c'est son premier comic book. Ça paraît qu'il commence.
Oui. Et ben, en fait, ce qui est d'autant plus intéressant parce que en préparation de l'émission, je l'ai acheté. Je dois avouer, d'ailleurs, sans embâche, que je n'étais pas un lecteur de Black Panther. Je sais pas si je le saurais si j'allais le devenir, mais quand j'ai appris que Ta-Nehisi Coates allait écrire un truc de bande dessinée, je suis comme, ça va être épouvantable au début, comment il va pas être capable de gérer le média en termes d'écriture, mais je suis absolument intéressé à voir ce que ce type-là va faire sur le personnage, sur les questions politiques, etc. Et en prenant tout avant même de commencer à lire, ce que j'ai remarqué, c'est que les blurbs, les espèces de petites critiques, ouais, là, c'est The AV Club qui eux peuvent en faire, mais Vox.com. Donc, tu dis, ouais, je suis pas sûr que vous faites souvent des commentaires sur les derniers numéros de telle série. Là, c'est vraiment, je pense qu'on est en train de vraiment essayer, on modifie un peu le lectorat.
Ouais.
Si je peux me permettre, d'ailleurs, je suis allé l'acheter dans un magasin de bande dessinée, Studio 9, où j'ai demandé au vendeur, bon, mais comment ça se passe cette série-là? Tu sais, il m'a dit, mes gros acheteurs de bande de comic books qui suivent des séries, qui viennent les acheter à chaque semaine, ont arrêté après quelques numéros de suivre Black Panther parce qu'on dit là, ça, lui, ce qu'il fait, c'est ça pas rapport, ça change complètement. Mais il y a des gens qui viennent strictement pour celui-là. Donc vraiment, en fait, l'effet qu'on aurait pu anticiper de, il va s'aliéner un public qui est vraiment intéressé par la bande dessinée de super-héros, peut réduire d'une certaine manière. Mais aller chercher des gens qui voudraient pas être vu en public dans un magasin de bande dessinée là, qui peuvent aller le faire sous un couvert de respectabilité en disant ah, ben c'est étonnant, c'est cool, ça fait que je peux quand même aller en lire là, ça va être intéressant.
On voit que Marvel a fait le travail important que tu crois.
Connu.
Ouais.
Oui, exactement.
Et je pense aussi qu'en fait, la en le lisant puis en ayant droit à seulement quelques lignes, à peine là, deux paragraphes de Previously on Black Panther, moi quand j'ai lu le premier numéro, j'étais comme mais qu'est-ce qui se passe?
Où suis-je?
Où suis-je? Donc j'étais, je crois ça quand même que c'était peut-être une concession, j'imagine que Coates a fait de dire je veux pas trop ralentir l'action, revenir en arrière, je veux réembarquer là où les choses sont en train de se produire, les personnages, je vais assumer que les lecteurs les connaissent déjà, je vais ou sinon ils vont apprendre un peu c'est qui sur le tas. Il y a ben c'est ça en fait, c'est tellement un auteur à la plume abondante Coates que en lisant, je pouvais voir qu'il manquait d'espace. Tes dialogues, bon là, ils sont un peu empoulés, mais ça peut toujours aller des fois, les personnages de bande dessinée parlent comme ça. Mais là, tu sens que tu t'es toi-même un peu fait violence pour te contenir.
C'est vraiment important pour un auteur de bande dessinée, le mot juste, le bon mot, la concision.
Puis là, je pense qu'en ce moment, il y a énormément de pièces qui bougent dans le récit, c'est ça, des factions politiques ont introduit des personnages, donc avec un seul trade, moi je suis comme, ouf, ça va très vite, je suis pas certain de bien saisir, mais ce qui se dégage vers la fin, et là, alerte divulgateur, il va avoir une question politique assez intéressante qui se pose pour le personnage, et là, ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça devient aussi la manière de comment peut-on bien régner sur une population qui est insatisfaite. Ouais. Donc là, il y a aussi, oui, on va parler de comment t'es un modèle pour ta société, mais comme, peux-tu être plus comme Obama ou qu'est-ce qu'Obama devrait faire? Il y a des questions comme ça qui sont posées. C'est, disons, la perspective qui m'a apparu la plus évidente à la lecture, alors que à la fin du trade, on a un peu, là, comme souvent, on a des espèces de petits goodies où on a des pages de croquis et on a une page de scénario où là, on voit en fait un peu comment travaille Ta-Nehisi Coates. Et là, il dit, bon, on va commencer avec des plans rapprochés, après ça, on zoom out et on veut une impression de panique. Et il est marqué, je veux que ça ressemble au Boston Marathon Massacre. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, OK, moi, je l'avais vraiment
ben
pas
non.
vu. Ouais. Donc, et non seulement, je sais pas, je voudrais pas nécessairement blâmer le dessinateur de pas avoir répondu à la commande de son scénariste parce que je pense que Ta-Nehisi Coates a pas encore assez développé une pensée visuelle pour comprendre que le Boston Marathon Bombing, il y a pas une iconographie assez importante pour qu'on puisse l'utiliser comme un symbole efficace. Bon. Donc, ça va être quand même un peu, on va le voir se développer sous nos yeux. Je pense que lui, en fait, de ce que j'avais lu sur Ta-Nehisi Coates, quand Marvel l'a approché, lui, il était comme un peu, on va prendre une chance, mais voir qu'il va nous dire oui, tu sais, c'est un gars qui est au New York Times best-seller, tout ça. Puis quand il a accepté de m'en être humble en disant, là, ben, vous savez que je suis débutante, tu sais, ça va peut-être me prendre du temps. Et les retards de livraison s'expliquaient souvent par le fait qu'il était comme, j'ai pas encore fini de construire la carte, tu sais, et pas juste une carte mentale, là, c'est qu'il dessinait sur des schémas. Donc là, lui, il prend ça très au sérieux, donc au moins son attitude, disons, assez révérencieuse, augure bien pour la suite. Là.
Oui, parce que t'as raison, il a construit quelque chose. Je pense que c'est la carte la plus, là on parle en termes géographiques, la carte la plus précise sur la région. On voit les, parce que c'est tout à peu près des noms africains, mais pas tout à fait. Donc on change une lettre là pour essayer de faire un pays avoisinant. Mais c'est la première fois que les tensions sous-jacentes sociopolitiques sont aussi bien exprimées. Mm-hmm. Puis c'est très intéressant. Ce projet-là politique par rapport à Marvel ne se terminera pas avec Ta-Nehisi Coates. Parce qu'on a, à San Diego, il y a eu l'annonce du deuxième titre. Fait que autant que, en termes populaires, c'est pas le titre qui vend le plus, Marvel a vraiment l'air de vouloir offrir support à ça. L'histoire qui suivra les Dora Milaje sera tenue, en fait, sera scénarisée entièrement sous la plume de Roxane Gay, qui est l'auteur de Bad Feminist, duquel on a parlé pendant l'émission de Beyoncé. Il va y avoir une autre série qui s'appelle The World of Wakanda, qui va être, elle, beaucoup plus axée sur l'homosexualité, le féminisme intersectionnel, comme mené par cette auteure-là, qui, elle aussi, est une intellectuelle. Elle s'attaque à des gros thèmes. Fait que d'avoir cette vague-là, parce que là, bon, à deux, on peut pratiquement qualifier ça de mini-invasion.
Je me demandais, parce que moi, j'ai pas, pour être honnête, j'ai pas lu encore ce que Ta-Nehisi Coates a fait sur Black Panther. Je me demandais s'ils avaient conservé, en fait, dans cette nouvelle mouture, tout l'aspect dans quelle mesure il avait conservé ou en tout cas dealé avec l'aspect mythologique du personnage, puis son espèce de truc, ben c'est ça, par rapport à son masque, par rapport au titre Black Panther, parce que pour revenir très brièvement à Kirby, moi ce que j'ai trouvé très chouette en lisant ce qu'il a fait sur Black Panther pendant 12 numéros, c'est de voir à quel point le masque était vraiment important dans la manière dont il dessinait le masque, notamment parce que contrairement à tous les autres super-héros qui sont dessinés à l'époque, on voit, ça m'a fait penser à ce qu'on a vu plus récemment dans le Batman Earth One de Geoff Johns, dessiné par Gary Frank, où on voit clairement les yeux à travers le masque, puis un peu de peau là, ouais, dans les trous. Kirby joue beaucoup là-dessus pour montrer qu'en dessous du masque, c'est un noir. Puis à chaque fois qu'il met le masque, il devient le black. Pour se battre, il doit mettre le masque. Quand il l'enlève, il redevient un noble. Puis ouais, ça joue beaucoup là-dessus. Puis il dit souvent aussi à quel point quand il met le masque, c'est pour devenir un symbole, qui crée une espèce de thème dans le Black Panther des années 70 qui, à mon sens, préfigure quand même ce que va devenir après, ce que va faire Alan Moore après avec V for Vendetta. Ça va pas super haut.
Ben, en fait, de mon souvenir de lecture qui est très récent parce que je l'ai lu aujourd'hui, il y a pas une séquence où il doit enfiler le masque physiquement parce que en fait, son costume fait partie, en fait, là, c'est comme son survêtement. Donc, quand il veut activer son masque, ça fait comme juste pousser par-dessus son visage d'une certaine manière.
Non, c'est une armure technologique.
Maintenant. C'est ça, c'est une armure technologique. On joue quand même sur l'idée que d'ailleurs, c'est un peu étrange parce que là, il passe tout son temps comme ça en étant T'Challa, donc, figure ouverte. Et là, il se dissimule pour aller se combattre. Donc, on comprend que c'est pas une idée de... Il se cache à personne parce que tout le monde sait il est qui. Mais quand il revêt le masque, là, c'est plus pour dire « Game on, là, je suis là pour me battre ». Il y a un moment, par contre, où il discute. Il dit « Ben, ce que mes ancêtres m'ont dit, c'est que il faut pas trop agir devant ces sujets parce que faut pas qu'on leur montre notre force réelle. Plus ils nous ont pas vu agir, plus ils peuvent continuer à croire qu'on est extrêmement puissant. » Donc, ouais, quand ils nous voient en action, ça diminue ça diminue carrément notre projection imaginaire parce qu'ils peuvent avoir une idée réelle de ce qu'on est. Donc là, dans une situation de combat, il dit « Ben là, si je suis pour me battre... » Et là, il utilise une espèce de rayon laser en disant « Je vais pas juste le mettre KO, je vais vraiment l'annihiler parce que il faut que je préserve cette aura-là de surpuissance.
Ouais, » C'est intéressant.
Pour moi, les points forts de cette série-là et de qu'est-ce qu'on voit venir là, par rapport au titre, c'est de ne pas s'être concentré sur les lieux communs du personnage. Parce que ces trucs-là par rapport au masque, ces trucs-là de heavy is the head that wears the crown, c'est des tropes assez communes.
Ouais,
ils ont les vu assez souvent avec Black Panther.
Qu'on a vu dans Civil War. Panther générique.
En fait, avec le temps qui reste, je vais vous parler d'un ouvrage. De toute façon, j'en ai à peu près pour 5 minutes à discuter de ce curieux truc que j'avais trouvé un jour-là dans un magasin m'en essai. Je suis la couverture est belle. Une maison d'édition Ad House Book, je crois que j'avais lu un truc ou deux, c'était assez, ça a piqué ma curiosité. Finalement, c'est un truc qui s'appelle Aphrodisiac, donc c'est un personnage tout à fait fictif, mais en fait qui fait une espèce d'histoire parallèle de la bande dessinée du super-héros. Donc je vais inviter en fait Mathieu à le feuilleter et à réagir en direct. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc le livre est vraiment produit pour disons les qualités matérielles du livre visent à reproduire plusieurs étapes de l'histoire de la bande dessinée. Donc là, au début, on a vraiment des aplats de couleurs assez terribles. On a des quadricromies vraiment très violentes. On va essayer de mimer un peu le papier journal jauni entre les cases en arrière-plan. Et même les styles de dessin, là, je dois avouer que je peux pas vraiment repérer là, les citations graphiques, mais on sent vraiment qu'il y a plusieurs époques qui sont célébrées. Ouais, il y a vraiment le dessinateur a une grande versatilité. Ça serait inscrit dans l'histoire de la bande dessinée de super-héros parce que le personnage, en fait, à chaque nouveau numéro, c'est toujours des espèces de... C'est pas une histoire continue. Le livre doit faire à peu près 120 pages. Et c'est toujours des récits de 8 à 10 pages. Et à chaque fois, on comme crée une nouvelle genèse au personnage. Donc, et on reprend toujours le débat. Des fois, en fait, c'est parce qu'il s'est fait piquer par quelque chose de radioactif. Il a été exposé à des rayons. Il a voulu se faire injecter pour devenir un super soldat. Donc là, il y a clairement des citations aux héros de Marvel. Mais en fait, ce qui est assez, et c'est là qu'en fait ça confronte à un peu des problèmes de préjugés raciaux, c'est que le personnage, il a sa grande, en plus d'être extrêmement puissant physiquement, donc de pouvoir se défendre au corps à corps, terrasser ses ennemis, sa grande force, c'est d'être absolument irrésistible pour les femmes blanches.
Ouais, c'est le paradigme de Shaft. Ouais.
Et son occupation, c'est d'être un proxénète.
Ouais.
Oh! Oh snap!
Ouais.
Donc, il y a cette idée-là, en fait, de ce personnage-là qui est un peu un préjugé sur deux pattes.
Mm-hmm.
Mais qui, en même temps, le fait, ce qui, ben, le proxénétisme, évidemment, on est d'accord que c'est pas une profession louable, mais le fait qu'il attire les femmes blanches, c'est perçu, c'est comme un peu mangeant, comme, ouais, mais c'est un problème, mais en fait, ça devrait pas l'être. Je veux dire, si on est dans une ère post-raciale, comme certains aimeraient le croire, ben, ça devrait pas te poser problème, en fait.
C'est donc, vraiment tout un voyage à travers la BD américaine, là, je le fais depuis tantôt.
Ah oui, c'est puis en fait, il y a des moments où ça s'arrête seulement à juste des reproductions de couvertures, de fausses couvertures. Mm-hmm. Et donc oui, il y a une citation des bandes dessinées romantiques. Donc un courant là qui vraiment faut vraiment bien connaître la bande dessinée pour savoir que dans les années 50, pendant à peu près 2 ans, c'est extrêmement populaire pour intéresser les femmes. Mais donc là, on a vraiment, et il y a même une citation, en fait, la fois où le personnage, son origine est inspirée de Captain America, c'est en fait une bande dessinée où là, il y a une espèce de thème récurrent, à la fin, le personnage se fait abattre par un sniper. Donc là, vraiment, on va dans la citation jusqu'au développement les plus récents de Captain America.
Ouais, ben oui.
Et autre chose intéressante, parce que quand tu mentionnais le fait que la fonction première des personnages, le métier des personnages, souvent, là, Luke Cage, ça, c'est d'être soldat ou défendeur de la communauté. Le type, avant d'acquérir ses pouvoirs, donc Alan Deesler, qui est comme son identité civique, est un concierge. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça m'a fait réfléchir au fait que, ouais, ben, dans le fond, Peter Parker, il est en position de se faire piquer parce qu'il peut visiter un laboratoire scientifique. Bruce Banner, il y a quand même beaucoup des personnages qui ont des espèces de, justement, fonctions que, à l'époque, les Noirs ne pouvaient pas occuper, des rôles professionnels. Et là, lui, c'est un concierge.
Ouais.
Donc là, toutes les fois où il inscrit dans son histoire d'origine la manière dont ça a pu arriver, c'est vraiment encore plus tiré par les cheveux. Donc, oui, c'est sûr que moi, j'ai vraiment une difficulté avec le fait qu'on ait décidé de jouer le stéréotype à fond au point de faire de lui un proxénète, mais la manière dont il restitue, il fait rejouer les espèces de fantasmes, craintes et tensions raciales en faisant de lui ce type-là qui est absolument invulnérable, qui roule dans des belles voitures, qui toutes les femmes tombent sur son sous son charme.
Ouais.
Ça, c'est habile. Et là, ce petit détail-là, quand même bien glissé. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a même... on peut voir aux couvertures... Oh, ça, j'aime ça. C'est comme une espèce de... Juste une espèce de capture d'écran de la fausse série animée inspirée de la bande dessinée dans les années 80. Mais il y a certaines des bandes dessinées où on voit clairement le Comics Code Authority. Donc là, ça me laisse un espèce de paradoxe, comme « Ah oui, ça a été approuvé par le Comics Code, mais en fait, non, oublie ça, le Comics Code n'aurait jamais laissé passer une bande dessinée où le type est un proxénète et qui couche avec toutes les femmes qui croient son chemin. » Vraiment une lecture qui peut un peu perturber, mais moi, j'ai trouvé vraiment fascinante et, comme le soulignait Mathieu, vraiment un travail de citation, de reprise visuelle, graphique qui est...
C'est super maîtrisé en plus, hein?
Ouais.
S'il y a du travail, c'est hallucinant.
Connaissances techniques dans la production de bande dessinée sont trop limitées pour savoir si il a vraiment fallu aller jusqu'à imprimer les pages sur du vieux papier, les vieillir artificiellement, les numériser pour le produire ainsi, ou si c'est... Non, c'est juste un filtre bien simple sur Photoshop pour faire la quadricomie. Mais peu importe la manière dont on s'est pris, on a vraiment pris soin d'aller chercher une texture, une qualité qui rappelle un peu la matérialité de la bande dessinée d'époque qu'on perd, en fait. Là. Il y a même probablement, j'imagine, des lecteurs plus jeunes dans la vingtaine qui regarderaient ça en disant « mais c'est bien laid ».
Ouais, c'est comme récemment, c'est chez Fantagraphics. Je ne l'ai pas lu, je l'ai seulement feuilleté, mais ça a l'air très bien. « Hip Hop Family Tree ».
Ouais, de Ed Piskor.
Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Qui est aussi, qui reproduit... vu que ça suit l'histoire du hip-hop, ça commence dans la fin des années 70, puis en montant, ça suit en fait l'évolution des techniques d'impression dans le fond. Mm-hmm.
On doit conclure avec ça, mais c'est quand même un beau retour à l'introduction de l'émission par rapport à comment est-ce que le comic book Spider-Man nous permet de problématiser ces ambiguïtés thématiques et sociales. Je trouve ça vraiment très fort. Je veux vous remercier. Je veux aussi, parce qu'on peut pas vraiment finir l'émission sans mentionner Dwayne McDuffie. Ouais. Tout son travail avec Milestone Comics, Dwayne McDuffie, qui est décédé en 2011. Vous pouvez aller faire des recherches alternatives, mais on va peut-être publier quelque chose sur lui. Qui sait? Aussi, Truth, le premier Captain America qui est un Afro-Américain, là, plein de trucs comme ça qui sont vraiment intéressants à savoir sur la place active ou rétroactive des Noirs dans le canon super-héroïque. On va terminer avec une toune de Gangstar.
C'est parfait.
Passez une très belle semaine. On va aller écouter ça.
your mind and soul, so you can lead yourself to keep. I got a real objective here. I am a flexor here, cause I select a clear method for all suckers. I fall and fall and crawl into the pit of purgatory. I go for glory, I'm taking inventory, counting all the tough luck ducks while I narrate, relay and equate, dictate and deviate, cause my fate is to be co-making history. I use sincerity, but I still bury deep doubts and questions of all the skeptics. I'm kicking cloud heads, I leave it method, it's true. There's nothing so-so, cause I know right about this minute, I'm in it, admit it, I did it with you. Cause this is what I'm into. So chill while I instill that my arm was fulfilled. The proper mission for us. And yo, this is a must. To these lines on my rhymes, I attest. These are the words that I manifest. I manifest. Take a breath for the words I manifest. They will scold you and mold you. Well, I impress upon you the fact that I use my tactic, rhyming, proclaiming, and chill while I attract that girl you're with. I got a sense of quality. I'll give her all of me, cause you're too small to be trying to rip. So let me uplift and shift my gift. Let's go to the fullest capacity. I got tenacity, because I have to be the brother who must live and give with much insight, the foresight to ignite, excite and delight, and you might gain from it, or feel pain from it, because I'm ultimate, and I'm about to let off, knowledge, wisdom, understanding, truth with proof, so won't you throw a hand in the air, put up a peace sign, a peace sign, and though we're feeling good, we should, we could, we would, stop. Think for a moment, okay? And then sway. Well, I can make that we must do away with all the stress and the strife. So God bless your life. Use kindness and never blindness. And you will find that this perspective is best. Check it out. These are the words that I manifest. I manifest. To live to righteousness rules, so I forgive you this time for you are being very ignorant. That's insignificant, I guess you figured it. Hope to be dope as me, I see you please, because the rest is too much for you. I'm your professor, I got the touch to do more than the rest. Confess and can't compete, I'm elite, I'm beefy, delete and mystery, and mincemeat of other fools, cause I'm the brotherhood, snatch up the funds and make lonely ones. I meant it really, cause I'm clearly obsessed, and I, these are the words that I manifest, I manifest.